sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, désolé pour ce petit bug, RFI ne s'est pas lancé ce midi, mais par contre le jingle qui désannonce le journal de RFI, lui, s'est lancé. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, en tout cas, vous êtes bien sur Radio Barthas, sur le 107, ou sur Radio sur les internets, si vous nous écoutez en ligne, radiobarthas.net. Il est tout juste midi et des poussières, et c'est l'heure de ce rendez-vous radiophonique consacré à ce qu'il se passe par ici, raconté par celles et ceux qui fabriquent ce qu'il se passe par ici. Et ce midi, nous sommes en direct, et on part en roue libre avec Rim et Manon. Salut à vous deux.
Bonjour.
Salut Raphaël.
Alors, vous êtes venus ici pour nous parler donc de Roue Libre, le festival que vous lancez toutes les deux en compagnie de Papaye aussi. Vous êtes les trois orgas, mais Papaye n'est pas avec nous ce midi. Donc, vous êtes à la fois fondatrice, organisatrice, programmatrice, logisticienne, communicante de ce festival. C'est un tout nouveau festival lausérien, un festival queer qui fera sa toute première édition au mois d'août. Ce sera les 22 et les 23 août.
C'est ça.
Et là, vous organisez une soirée de soutien. Ça arrive très, très, très prochainement. C'est ce samedi, le 30 mai, au Pont de Montvert. Alors, peut-être pour commencer cet échange, on peut revenir un peu aux origines, les origines de la roue. C'est une longue histoire. Comment ça vous est venu, ce festival ?
Alors, la genèse...
rime.
Eh bien, c'était l'été dernier. On était en terrasse avec Papaye à siroter une bière. Et en fait, on voyait passer beaucoup de personnes queer. Enfin, on avait la sensation que beaucoup de touristes queer venaient à Florac. Et moi-même, je suis une maman queer. Et je suis installée depuis 5 ans maintenant. Et c'est vrai qu'en tant que maman queer, je me suis sentie un peu esseulée. Puis voilà, je venais d'arriver, donc je n'avais pas connaissance de tout le tissu d'associations et collectifs queer qui existaient ici à la campagne, en ruralité, enfin voilà, en Lozère de manière générale. Et j'ai toujours rêvé d'organiser un festival. Et Papaye aussi. Et puis on s'est dit, tiens, et si on lançait un festival queer ? Et c'est parti comme ça, et s'est regardé. Au départ, c'était presque une blague, puis on s'est regardé, et en fait c'était un regard très sérieux.
Et là et vous avez senti que...
Allez, on le lance. Et puis ensuite, j'ai tout de suite pensé, on a pensé à Manon, on lui a proposé, et Manon, elle a sauté sur l'occasion, ouais, en disant un grand oui. Je sais pas si tu peux raconter.
En fait, moi ça fait quand même quelques années que je suis dans le tissu associatif, et j'ai l'expérience et puis le recul qui fait que je me suis dit je peux être la bonne personne pour vous aider à faire ça. Et comme on est amis avec Rim et avec Papaye depuis bien plus longtemps aussi, on s'est dit en fait l'équipe va forcément bien rouler. Et par contre, il va nous falloir trouver d'autres personnes pour se joindre à ce grand projet. Et du coup, je voulais juste rajouter, parce que tu disais qu'on était trois, mais en fait, on est quatre. On a aussi notre coordinateur artistique qui s'appelle Jacques Brett, qui a le lieu Les Lisières, sur la commune de Montbrun. Et puis, on y est depuis octobre. Enfin, on a fait la première réunion en septembre. Et après, du coup, on a fait le lien aussi avec Baouka, qui est une autre association sur le territoire.
Qui accueillera le... Qui vous a un peu donné justement la piste pour le lieu, pour l'organisation du festival, c'est ça ?
Ouais, eux, ils ont déjà organisé en fait les Manu Bass sur le lieu Manu Bert, qui est au-dessus du Pont de Montvert. Et on s'est dit, c'est le lieu sur lequel le festival peut se faire. Et puis, il s'avère que je connais bien le proprio, et du coup, je lui ai envoyé un message, et il m'a dit oui, pas de souci, surtout sur cet événement-là, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis, on est... depuis octobre, comme je disais, sur l'orga, sur la logistique.
Et il y en a des choses à faire pour créer un festival de toutes pièces. C'est quand même assez costaud, quoi. Il y a plein de trucs à penser. Voilà, l'orga, la logistique, la programmation. Il y a énormément de choses à gérer. Il y a aussi la com, parce que bon, voilà, il faut quand même de la visibilité, faire connaître, donner envie aux gens pour qu'il y ait du monde qui vienne, relayer auprès de toutes les associations, initier des partenariats. Tout ça, c'est un travail énorme, en fait. Ça se passe bien, ça va.
Ça se passe.
Ça se passe
bien selon les semaines, ça se passe moins bien selon les jours.
Non, c'est vrai que c'est un travail énorme, d'autant que ce n'est pas notre activité principale. En tout cas,
vous êtes bénévole, il faut bien le rappeler.
On est bénévole, on fait ça à côté d'un travail, à côté d'être maman solo.
Boulot à plein temps.
Voilà, donc ça, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on aurait aimé faire, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. Mais en tout cas, l'intention est là et c'est une première édition. Donc on apprend, on fait des erreurs, on fait des... Voilà, mais je sais que ça va aller... De mieux en mieux.
Et Rim, tout à l'heure, tu évoquais donc que toi, tu voyais passer voilà, plein de personnes queer l'été ici, que toi, tu étais là, que tu avais l'impression qu'il y avait un peu un manque. Là, depuis que vous avez lancé un peu la com du festival, il y a eu quand même un engouement assez fort d'un coup. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une vraie attente des Lozériennes, des Lozériens pour un événement comme ça, que ça manquait dans le coin d'un festival queer?
Moi, je dirais pas que ça manque parce qu'il y a déjà des choses qui sont faites dans le coin. Il y a déjà plein d'assos, en fait, au fur et à mesure de la création du partenariat, de rencontrer des gens qui sont dans des assos, qui ont déjà organisé des événements et tout ça. On se rend compte depuis un an qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites sur le territoire. Donc, je dirais pas que c'est un manque, mais en tout cas, c'est notre volonté de mettre ça en place et qu'on réussisse à créer un vrai partenariat et vraiment qu'on se regroupe, en fait, parce qu'il y a plein de petites assos et plein de petits événements qui sont dans les vallées, aux alentours. Et on a besoin, en fait, de ce lien pour faire exister.
De se fédérer pour faire exister tout ça. Mmh. OK, donc là, c'est un gros travail de nouer tous ces partenariats. Et je voulais revenir un peu sur la com, parce que moi, je trouve ça intéressant quand on lance quelque chose vraiment un peu comme ça de toute pièce, un nouveau festival. C'est un vrai challenge. Et on s'est vu hier, donc vous m'avez un peu raconté deux, trois choses. Il y a un truc qui s'est passé en termes de com. Il y a eu un gros pic d'abonnement d'un coup sur Instagram. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait?
Eh bien,
ce que je trouve que c'est intéressant, c'est éclairant pour peut-être d'autres assos, d'autres structures qui se posent des questions parfois sur comment est-ce qu'on gère la com.
Pour tout te dire, on a été surpris par l'engouement. En fait, j'ai créé un compte Insta, c'était quoi, en janvier? Et j'ai fait deux publications et il y a eu des centaines de personnes qui se sont abonnées.
Et on entendait nos téléphones avoir des notifications.
C'était assez impressionnant.
C'était le buzz. Ouais.
Et puis, et c'est vrai qu'on a eu un petit coup de pouce aussi de Lou Trotignon qu'on avait vu en spectacle à Mende.
Oui, il était en spectacle à Mende en janvier, le 24 janvier dernier.
C'est ça.
Lou Trotignon, on peut rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un humoriste et militant pour les droits LGBT, justement.
Oui. Et donc, on lui a parlé du festival. Puis, il a trouvé l'initiative superbe. Et puis, en fait, il l'a relayé sur ses réseaux. Et c'est vrai que ça nous a aussi apporté pas mal de visibilité.
Mais même avant ça,
ça a été un coup de pouce en plus. Mais c'est vrai que, vu la manière dont ça s'est passé, la rapidité avec laquelle ça s'est passé, ça nous a vraiment donné la sensation que c'est attendu. Enfin, il y a un réel besoin, ça répond à un besoin.
Il y a un engouement, quoi.
Il y a un engouement.
Après, ça reste des réseaux sociaux, donc ça veut dire que c'est national, quoi. Et donc, en fait, toutes les personnes qui sont abonnées au compte ne seront pas forcément des festivaliers et des festivalières et ne seront pas là non plus sur les soirées de soutien. Enfin, du coup, il y a la réalité du terrain, de la ruralité
et le virtuel.
Et le virtuel qui a une très grande place aujourd'hui.
Oui, c'est sûr. Et puis c'est quand même, même si en effet ça reste virtuel, il y a quelque chose d'encourageant. Et malgré tout, même si on peut être un peu rebuté par les réseaux sociaux, le fait est que ça peut marcher et ça peut être un truc en plus, en tout cas. Et alors, On ne va pas encore dévoiler la programmation du festival en tant que tel. Ça sera annoncé un peu plus tard. Vous allez lancer l'ouverture des préventes. Ce sera courant du mois de juin. Et ça sera accompagné d'une campagne de financement participatif parce que voilà, il faut préciser un peu votre modèle. Vous n'avez aucune subvention. Vous avez la volonté de rester complètement indépendant pour cette première édition. Des comptes à rendre à personne, en roue libre, vous avez dit.
Exactement.
Et donc, c'est important, le financement participatif et les soirées de soutien aussi, pour quand même avoir de quoi rémunérer les artistes, de quoi organiser tout ça.
Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'au départ, on avait cette volonté de rendre... Enfin, on voulait faire tout à prix libre. Après, on s'est rendu compte que...
On
financièrement, ce n'était pas tenable.
En fait, on n'était pas tous d'accord. Moi, j'étais là. Non, mais en fait, il y a la réalité.
Ouais, et paye. C'est vrai que voilà, le but, c'est de s'auto-financer. Donc, comme tu l'as dit, grâce aux soirées de soutien, grâce à un financement participatif et grâce à la pré-vente de billets. Et je sais plus ce que je voulais dire.
Et moi, je me demandais aussi un peu pourquoi ce choix de vouloir rester complètement indépendant. Vous avez l'impression que ça vous permet de faire une programmation beaucoup plus libre. Enfin, qu'est-ce qui vous tenait à cœur là, d'être vraiment complètement non subventionnée, on va dire, pour cette première édition ?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est celle-ci, c'est qu'on voulait rester complètement indépendant et autonome, sachant que aussi vu le climat politique du moment. Et notamment vis-à-vis des questions LGBTQIA+, c'est assez compliqué. On n'avait pas envie d'être confronté à des problématiques comme ça.
Il y a le choix aussi des institutions vers qui on va se pencher pour demander de l'argent. On veut vraiment que ça ait un lien politique et avec notre démarche. En fait, on ne veut pas demander de l'argent à n'importe quelle commune et à n'importe quel asso. D'avoir vraiment cette possibilité de choix.
Donc c'est quelque chose que vous allez penser un peu plus sur le long terme pour les prochaines éditions. Et là, pour celle-ci, ça reste autofinancé, indépendant.
Et puis l'idée, c'est de aussi se baser beaucoup sur la collaboration entre les assos, les acteurs, les actrices locaux. Ce qui est aussi un moyen de remédier au fait qu'il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire c'est de compter un peu sur le soutien à la co-création. Alors on est encore aux prémices de cette démarche, de cette intention. Donc l'idée, c'est, si on fait d'autres éditions, c'est de vraiment arriver à créer ce vrai tissu d'acteurs qui collaborent ensemble, qui co-créent ensemble. Donc il y a encore pas mal de boulot à faire à ce niveau-là, mais en tout cas c'est l'intention, la première intention qu'on a eue quand on a lancé le festival.
C'est surtout la démarche de prendre le temps, d'avoir le temps de prendre le temps, en fait, de par nos statuts respectifs de moment, entre autres.
Et que le temps passe très très vite, et que là, c'est déjà la date de donc, votre deuxième soirée de soutien. Vous en avez fait une il y a quelques mois déjà, et donc là, c'est la deuxième. Donc samedi, au Pont de Montvert, ça commence à 19h30, et donc il y a une participation aux frais, c'est 10€ pour la soirée. Quel est le programme alors ? Est-ce que vous pouvez nous dérouler un peu qui seront les artistes présents ?
Tu peux commencer par le cabaret ?
Oui. Alors on commence par un cabaret queer avec l'exquise Gouaï qui viennent du Vigan et qui organise des cabarets avec des drag shows, drag king, drag queen, créatures et qui sont très militants. Elles sont très militantes sur le territoire. Et en tout cas, on est vraiment très, très heureuse de les accueillir et de les découvrir parce que personnellement, je ne les ai encore jamais vus performer. Donc, je suis vraiment heureuse de cette rencontre et de cette découverte.
L'exquise Gouaï, donc. Mmh. Et après, il y aura un premier concert de rap queer, un peu.
Oui. Du coup, il s'appelle Akalai ou Akalé. On n'est pas encore tout à fait d'accord. Il faut qu'on leur demande. Akalé et Spilly. C'est du riot rap queer. Ils viennent de Toulouse. Et on a aussi une autre personne qui est DJette qui s'appelle Aura Célone, qui fait de la techno Dyke Waves, qui vient de Marseille.
Ok, on peut écouter un petit extrait là de Akalai et Spinny pour se mettre un peu dans l'ambiance. C'est parti.
Allez, nickel. 30 et plus d'âge, c'est mon objectif à moyenne longue depth. On vient prendre la part des trans et des tasses. Transpire la classe, parce qu'ici tu verras pas de mise parfaite. Ça va d'un trop propre, Batman Begins. On cuisine la prod, on fait du pegging. Faut bien se faire les dents, ouais les gros séguisses. Lancement de balance, y'a v'là les jaloux qui vont s'écrire. L'équipe c'est AK, pose avec...
Voilà, Akalai Espini, transfuge de classe, c'est pas mal. Donc ils seront sur scène samedi, et donc après il y aura Horace Elon, on écoutera un titre d'elle aussi tout à l'heure. Donc bah, ça va être une super soirée, ça va durer tard, ça commence à 19h30 jusqu'à...
Pas d'heure.
Jusqu'à pas d'heure.
Chut, faut pas le dire.
Et ça se passe où, au Pont de Montvert exactement?
À l'Écomusée, à la salle des fêtes.
À la salle des fêtes du Pont de Montvert. Très bien. Et alors moi, je tenais aussi à annoncer officiellement que Radio Bartas est désormais partenaire de Roue Libre. Alors on voulait signer la convention de partenariat en direct à la radio, mais on n'a pas eu le temps... En ASMR. On aurait voulu vous faire entendre le son du stylo contre la feuille. Mais le document n'a pas encore été rédigé, on n'a pas eu le temps, donc ce sera pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, on est ravis de vous suivre sur tout ce festival et les soirées qui précèdent.
C'est partagé.
Voilà, et ben merci beaucoup Rime et Manon d'être venues nous présenter tout ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Pas tout de suite, peut-être dans les autres émissions, parce qu'on a aussi d'autres petites choses qui viendront par la suite.
Je pensais à un truc qu'on a oublié, vous êtes encore un peu à la recherche de bénévoles aussi pour samedi et pour le festival évidemment, mais même pour la soirée de samedi, si vous êtes là, celles et ceux qui nous écoutent, que vous voulez participer, il y a des trucs à faire.
Il y a pas mal de trucs à faire.
Et donc on vous contacte comment si on veut vous rejoindre pour samedi?
Via WhatsApp, on l'a mis sur la pub Cévenol, on a aussi l'Instagram.
L'Instagram, Festival Roue Libre.
Ouais. Et moi je remettrai les contacts aussi sur la page de l'émission.
Voilà. Et puis par mail aussi, contact.roue avec un S, libre avec un S, 48 en chiffres, @mailo.com.
C'est bien noté, merci. Et donc on se quitte avec Horace Elon qui sera aussi sur scène samedi soir avec le titre Alarme.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Barthas. Le direct continue et je suis maintenant en compagnie d'Emilien. Salut Emilien.
Salut Raphaël et salut Radio Barthas.
Alors Emilien, tu es stagiaire en ce moment ici à Radio Barthas. Donc je te présente à nos auditrices, nos auditeurs. Tu es en première année de licence d'histoire option journalisme à l'ESJ de Lille. Et tu nous as contacté pour faire un stage. Tu passes 10 jours avec nous. C'est court, mais tu as été hyper efficace car tu es déjà revenu avec un reportage. Qui nous permet d'ailleurs de poursuivre cette émission sous le signe de la queerness d'une certaine façon, car tu vas nous parler de virilité.
Exactement, puisque aujourd'hui je vous propose une activité qui sort un peu des sentiers, on va sortir nos dicots. Et tous ensemble, on va aller à la lettre V. Virolage, non, c'est pas ça. Viriliser, toujours pas. Virilisme, on s'en rapproche, mais ah, virilité. Virilité, deux points. Ensemble des caractères physiques de l'homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin, capacité d'engendrer, vigueur sexuelle, courage. Bon, de la virilité, on est tous d'accord pour dire qu'on en a à revendre. Mais soyons honnêtes, on ne sait pas comment la définir. Et c'est pas le Larousse qui va nous aider. Alors, pour régler ça, je vous propose un petit cours de rattrapage. Au programme genre, identité et virilité. Et pour ça, je suis allé à la rencontre de Maxime Potard, qui jouait samedi dernier à la Jeunette Verte son spectacle « Danser dans mon petit salon sans me poser de questions ». Une fresque poétique qui nous interroge sur notre masculinité et, bien sûr, notre virilité. La représentation était précédée d'un stage où pendant 3 jours, les volontaires ont pu suivre des cours de danse pour être inclus dans un spectacle. Mais maintenant, je me tais et je vous propose qu'on s'écoute ça.
Je m'appelle Maxime, je suis comédien et j'écris des textes et des spectacles depuis une quinzaine d'années, en collectif principalement. Donc là, le collectif dont je fais partie s'appelle le Détachement International du Muerto Coco. On est basé à Marseille. Bon, on fait à la fois beaucoup de spectacles ensemble et on a aussi certains spectacles sur lesquels qu'on a écrit seul, on va dire. On a chacun un peu son solo. Et là, en l'occurrence, c'est celui-là que je viens jouer ce soir à la Jeunette Verte.
J'ai regardé des informations sur toi pour préparer cette interview. J'ai vu que tu avais commencé avec un parcours dans le théâtre qui est somme toute assez classique, c'est-à-dire tu as fait le Conservatoire de Bordeaux. Et là, tu as commencé avec vraiment les classiques, Tchekhov, Racine, etc. Et maintenant, j'ai plus les mots exacts, mais sur le descriptif du spectacle, c'est « Je bouge mon corps dans les culottes en satinette et en ouatine ». C'est où que ça a vrillé, en fait?
Bouger mon corps dans des culottes en satinette et en ouatine, c'est un petit bout de présentation du spectacle que j'avais dû écrire pour un truc de com il y a quelques temps. Et puis des fois, il y a des textes de com qui ressortent sans qu'on le choisisse vraiment. Après, ça a vrillé où? Disons que, en tout cas, oui, j'ai commencé par le conservatoire, qui était une formation assez classique, surtout à l'époque, parce que c'était il y a 20 ans. Ensuite, après le conservatoire, j'ai fait une formation en compagnonnage dans un théâtre de création contemporaine à Aix-en-Provence, qui s'appelle le Théâtre des Ateliers. Donc là, j'ai fait leur formation qui s'appelle la compagnie d'entraînement, où on est 10 élèves... Entre élèves et pros, on va dire, on est comme une espèce de compagnie fictive et pendant un an, on nous donne des commandes de travail, des auteurs associés. Et donc du coup, là, on apprend plus à développer nos envies créatives en tant qu'auteur de spectacle, en gros, et comédien aussi. Mais voilà, disons que par rapport au conservatoire, qui était vraiment plus axé sur l'actorat pur et dur, là, dans cette formation-là, j'ai pu avoir l'espace pour me poser les questions de quel genre de spectacle j'avais envie de voir, de faire. C'était une formation qui nous a laissé très libre de faire émerger un peu tout ce qu'on avait envie de faire émerger dans nos pratiques. Et donc c'est là que c'est parti en vrille, forcément.
Et justement, dans ces thèmes que tu as voulu plus explorer, il y a aussi surtout le thème du genre et de la virilité qui est beaucoup abordé dans ton spectacle, que tu avais aussi abordé à travers d'autres médiums entre guillemets, avec l'événement Kiss My Genre qui avait commencé en 2019, si je ne me trompe pas. C'est des thèmes qui, dès le début, étaient très importants pour toi?
Je pense que c'est des thèmes qui ont été importants pour moi depuis tout petit, mais par contre, le fait que j'ose commencer à les mettre dans ma pratique et dans l'espace public, on va dire, ça c'est un peu plus récent, on va dire c'est aussi les rencontres que j'ai faites qui, au fur et à mesure, m'ont permis de faire émerger un peu ces questionnements-là. En fait, en 2018, on a créé un spectacle avec Muerto Coco et deux autres collectif, en gros on était 3 collectifs à créer un spectacle ensemble qui s'appelait la Toy Party. Et ce groupe là à ce moment là on était tous un peu avec des petits désirs secrets d'envie de commencer à titiller un peu ces questions là et c'est vraiment cette rencontre là où on s'est un peu encourager les uns les autres à commencer à poser des choses de l'ordre de la désobéissance aux grands stéréotypes de genre et de nos sexes. Donc ça a commencé là, et puis ouais, mais une fois que j'ai commencé à tirer ce fil-là, j'ai plus trop arrêté. Ouais.
Et quand tu as commencé à tirer ce fil, justement, ça t'a amené à parler donc de ce que tu appelles la fiction de la virilité. Est-ce que la virilité, ça existe ?
Bah, est-ce que la virilité existe ? J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, ça reste un concept humain. Donc après, est-ce que la définition qu'on donne aux choses, c'est un truc qui m'intéresse vachement, de dire si jambe, ça définit ça, virilité, ça désigne quoi ? Donc c'était un peu cette chose-là vraiment qui au début m'intéressait. Donc c'est pour ça que j'ai posé la question à beaucoup de monde et que ce spectacle, il est fait aussi de beaucoup de voix qui ne sont pas les miennes, parce que j'ai interrogé beaucoup de monde à ce sujet-là. Mais au final, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que tomber sur une espèce de consensus autour de la définition de la virilité, ça m'intéressait peu. Mais que c'était plus une sorte de cheval de Troie, à la fois moi dans ma pratique et dans les interviews, dans les entretiens que j'ai fait avec les hommes. C'était un peu comme un petit cheval de Troie, quoi, pour dire oui, je viens te poser cette question-là et pour qu'on y réfléchisse ensemble. Mais en fait, très vite, les hommes se mettaient à me parler de leur intimité. Et c'était ça le vrai but, c'était que les hommes me parlent de leur rapport intime aux injonctions autour de nos sexes, quoi.
Et si on revient sur cette idée de la définition de la virilité, au début du spectacle, dans les extraits que j'en ai vus, l'un des premiers mots qui sort quand tu prends ce mot, c'est poil. Ça vient d'où, en fait, cette idée que virilité égale poil, dans ton spectacle en tout cas ?
Ah bah dans mon spectacle, ça vient du fait que sur les premiers moments où j'ai commencé à interviewer des gens, au début, c'était pas des entretiens longs et posés dans des petits cocons, comme ça a été le cas beaucoup après. Au début, c'était vraiment dans la rue. Et du coup, je posais des questions un peu différentes, mais il y en a plein sur le tout début à qui je demandais si je te dis virilité, est-ce que tu peux me dire le premier mot qui te vient à l'esprit ? Et sur 126 personnes à qui j'ai demandé, il y en a un peu plus du tiers qui m'ont répondu poil. Donc je ne l'avais pas vu venir, mais du coup oui, ça s'est retrouvé dans le spectacle sur un morceau de texte qui est la suite de ces 126 mots. Et effectivement, c'est vraiment ce qui s'est passé. Après, je les ai un peu agencés pour que rythmiquement les poils viennent, mais en termes de proportion, c'est la vérité de ce que j'ai recueilli en tout cas.
Finalement, la virilité, c'est un concept qui peut être très personnel, voire même intime parfois. Est-ce que dans ce cas-là, c'est pas alors un sujet qui est très difficile à traiter et encore plus à mettre en scène devant un public ?
Par rapport au fait que c'est intime ?
Oui, par rapport au fait que chacun a un petit peu sa propre définition au fond.
Le fait que ce soit un sujet intime, non, pour moi, c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cœur même de ce geste-là, je pense, pour moi, de créer ce spectacle. C'était de prendre les intimes de beaucoup d'hommes et de les mettre littéralement sur la place publique, parce qu'en plus, ce spectacle, je le joue beaucoup en espace public. Là, c'est une des premières fois ce soir que je le joue en salle. C'est pas quelque chose de facile, et les paroles les plus intimes, c'est sûr qu'elles sont pas sorties comme ça dans la rue. C'était des entretiens qui ont été plus longs. Première approche de ce mot-là, c'était justement de l'observer comme une espèce d'alien dont je sais pas quoi foutre et que je comprends pas, et que c'est plutôt cette porte d'entrée-là que j'ai prise sur ce mot-là, et pas de pas arriver avec un avis dessus. Et chaque fois que je fais des entretiens avec les personnes, je ne donne jamais mon avis sur ce qui est dit. Je pose des questions, je demande simplement « Ah, tu viens de dire ça, est-ce que je peux en déduire que c'est ça que tu penses ?» Et la personne me dit oui ou non, et puis peu à peu, on s'enfonce vraiment dans l'intime de la personne. Donc oui, ma porte d'entrée, en tout cas, c'était vraiment une porte d'entrée très... pas objectif, parce que c'est impossible d'être objectif, mais en tout cas de pas trop être dans l'affect, dans mon propre affect avec ce truc là je donne accès un peu à mon affect avec ça dans le spectacle aussi, mais c'est des petits bouts qui sont plus sur le côté.
Ces mots, ces ovnis comme tu l'appelles, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont venus en plus de la virilité que t'as trouvé intéressant de vouloir développer ou que tu aimerais développer?
Pas vraiment, non. Bah après, il y a tous les mots, tous les autres qui tournaient autour, masculinité, masculinisme. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Puis on va dire que ce sujet-là, je l'ai beaucoup défriché sur cette création-là. Ça faisait plusieurs années que je bouquinais un peu autour de ça. C'est un sujet qui continue à m'intéresser, mais là, du coup, je me tourne un peu vers autre chose maintenant. Là, le prochain projet du collectif, on travaille autour du mépris de classe, et on essaie de faire un peu une satire de notre propre groupe social, c'est-à-dire la petite bourgeoisie culturelle, en essayant pareil de pas d'approcher ça sans jugement, mais de façon assez factuelle. Donc là, non, c'est plutôt là-dessus que je me tourne en ce moment.
Et ces concepts, mais qu'on pourrait étendre à plein d'autres, virilité, masculinité, féminité, etc. Est-ce que pour toi actuellement, c'est des concepts qui bougent beaucoup, qui évoluent ?
Franchement, c'est dur à dire parce que des fois, enfin oui, je les vois bouger, pas forcément dans des sens avec lesquels je suis raccord non plus. Moi, disons que au-delà de la vie que j'ai sur les choses ou de l'affect que je peux avoir avec tel ou tel mot ou tel nouveau mot qui va débarquer, moi, ce que je crois, rétrospectivement, là maintenant, je peux me dire que ce que je voulais faire avec ce spectacle, c'était juste mettre le doigt sur le fait que, selon moi, il y a quelques trucs qui sont biologiques, bien sûr, mais il y a énormément de culturel dessus et il y a une fiction énorme autour de ce qu'est censé être un homme, de ce qu'est censé être une femme. Et moi, mon envie dans ce spectacle, c'était vraiment juste de dézoomer et de dire, s'il vous plaît, regardons tout ça comme une fiction et pas autre chose. Après, t'es libre d'en faire ce que tu veux, de la fiction. Si t'as envie de te jeter à corps perdu dedans, fais-le vraiment. Pour moi, il n'y a pas de bonne façon de s'exprimer ni de mauvaise, enfin, et d'exprimer son genre. Mais essayons de nous mettre au moins d'accord sur le fait que tout ça n'est qu'une fiction. Je pense que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Je connais des gens qui disent non, tout est biologique. Moi, je trouve pas. Voilà. Donc, ce spectacle qui vient surtout parler de ça, quoi. Juste d'essayer de dézoomer, de se dire, ok, voilà, tout ça est une fiction.
Je suis un garçon, et pour un homme.
C'était Mylène Farmer à l'instant sur Radio Bartas avec cet immense tube sans contrefaçon sorti en 1987, il y a presque 40 ans déjà, oh là là, magnifique morceau en tout cas qui évoque l'identité de genre et c'est ce qu'on continue de faire nous aussi sur Radio Bartas ce midi. Je suis toujours en compagnie d'Emilien, stagiaire éphémère qui nous accompagne jusqu'à la fin de cette semaine et Emilien, à l'issue du spectacle de Maxime Potard Danser dans mon petit salon sans me poser de questions qui était, je le rappelle, joué à la Jeunette Verte à Florac samedi dernier, eh bien Emilien, tu as laissé traîner ton micro à la sortie de la salle pour récolter quelques ressentis de spectateurs. Tu as rencontré notamment Jacques et Christophe, on les écoute.
Bah, c'est un concept dont j'ai parlé pas plus tard qu'hier soir avec des amis, la masculinité, en pensant en particulier à mon neveu qui a 18 ans et qui montre des signes de masculinité. Il a des images sur TikTok et sur Insta de virilité vraiment affirmée. Voilà. C'est un thème qui me touche et que je trouve intéressant.
Moi, je suis homosexuel. Je ne vois pas comment j'aurais fait pour ne pas réfléchir à ça. Voilà, j'ai été, depuis l'enfance à l'école, sujet à moquerie, etc. parce que je n'étais pas suffisamment viril.
Alors là, Christophe, il a mis le doigt sur un sujet qui est plus qu'actuel en évoquant l'influence des réseaux sociaux dans les déviances liées à la masculinité, avec le cas de son neveu. Et Christophe également, avec son histoire personnelle également, a été très intéressant. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est s'ils entendaient parler de ces questions, virilité, masculinité, dans des sphères en dehors d'eux.
Ah oui, assez. Je travaille dans un grand groupe. On parle beaucoup de l'acceptation des personnes qui sont différentes de nous. C'est une thématique qui revient souvent dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Donc oui, ça me parle.
J'ai trouvé en tout cas très intéressant cette grande diversité de réponses. Je ne suis pas sûr d'avoir moi-même une réponse. Mais en tout cas, c'est intéressant d'entendre ces témoignages. Enfin, j'imagine que ce sont des témoignages qui ont été glanés au travers de réelles rencontres entre le metteur en scène. Et ça ramène à tout un tas de questions sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, qu'est-ce que ça veut dire être viril. C'est évidemment quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Ben justement, je pouvais pas finir sans leur poser la question qui est finalement au centre du débat. C'est quoi leur vision de la virilité ?
Je sais pas, une conception de la virilité ou une image de la virilité, j'en ai beaucoup. J'ai trouvé que le spectacle reflétait bien les questions que je me pose ou que je me suis posé sur la virilité. Pour moi, il n'y a pas une conception unique de la virilité ou une image de la virilité. La virilité s'exprime au travers de multiples facettes de la personnalité ou de la personne, oui.
Il me semble que c'est un concept qui empêche de vivre comme il faut, quoi. une image à laquelle on essaie de se référer quand on est un mec. Si on quittait cette image-là, on pourrait peut-être se demander qui on est, simplement. Et ça perdrait peut-être moins de temps pour tout le monde.
Se demander qui on est, tout un projet, celui d'une vie probablement. Merci beaucoup Emilien pour ce reportage.
Merci Raphaël.
Et je te retrouve demain où tu vas t'essayer notamment à l'exercice de la chronique pour nous parler d'un grand jazzman qui nous a quittés hier.
Et oui, Sonny Rollins, décédé lundi dernier, le saxophone Colossus. On en parle demain dans Midi et des Poussières.
Décédé lundi, non pas hier, avant-hier. Merci beaucoup, à demain. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est le jour où on parle cinéma sur Radio Bartas en compagnie de Cinéco. Bien sûr.
Parlons ciné
avec Cinéco,
la rubrique cinéma de Cinéco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi David qui est avec nous pour la chronique Parlons ciné avec Cinéco. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et tous.
Alors David, je rappelle que tu es bénévole pour Cinéco à Saint-Enimi et aujourd'hui tu vas nous parler d'un film qui s'appelle La Maison des Femmes.
Et oui, un très joli film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Mélisa Godet. Mais La Maison des Femmes, c'est d'abord une institution et c'est une maison qui est rattachée à l'hôpital de Saint-Denis en région parisienne. Et ça a été créé en 2016 par une gynécologue obstétricienne qui s'appelle Rada Hatem. Elle a ressenti ce besoin lorsqu'elle a constaté que les violences subies par ses patientes impactaient négativement leur santé. Alors c'est un sujet qui n'est pourtant jamais traité dans la formation des médecins et rien n'est fait pour que les patientes abordent cette question. Elle a alors eu l'idée d'un lieu qui répondrait à ce manque, un guichet unique où les femmes pourraient trouver toute l'aide dont elles auraient besoin. Donc c'est ainsi qu'est née la toute première maison des femmes, et comme je le disais, qui est rattachée au centre hospitalier de Saint-Denis, et qui permet un accompagnement médico-social unique pour les femmes en difficulté ou victimes de violences. Alors c'est en 2016, à ce moment-là, que la réalisatrice a entendu parler du projet et qu'elle a souhaité, pourquoi pas, faire un film sur cette thématique-là, avec des parcours de soins et des différents professionnels, des médecins, des psychologues, des avocats, des juristes, des policiers, et aussi des artistes, et on le voit aussi bien dans le film. Et toutes ces personnes, tous ces corps de métier croisent leurs compétences et leur énergie pour aider les femmes victimes de violences à se construire. Et notamment, la réalisatrice le dit dans un de ses propos que tu vas nous citer.
Oui, avec plaisir. Donc, je me fais la voix de Mélissa Godet. En tant que femme et citoyenne, je me suis dit que c'était formidable qu'un tel endroit puisse exister. Et en tant que scénariste et réalisatrice, j'ai tout de suite pensé que ça ferait un sujet de film génial, le genre de sujet que j'avais envie de porter au cinéma, un film choral, un film avec du fond sur un sujet important et un film lumineux aussi. Et le sujet m'est resté en tête. Voilà ce qu'elle disait.
Tout à fait. Et une des premières... personne concernée, c'est Rada Hatem elle-même, donc la gynécologue, qu'il fallait convaincre parce qu'elle n'était pas forcément... elle était un petit peu réticente à l'idée de devenir un personnage de fiction. Et c'est vraiment en arrivant avec un scénario bien précis, bien détaillé, que la réalisatrice a réussi à convaincre la gynécologue en posant une condition, c'est-à-dire que le personnage qu'elle allait représenter soit complètement assumé comme un personnage de fiction. Et c'est vrai que c'est une des forces du film, hein, c'est que c'est basé sur une structure qui existe réellement, mais c'est vraiment une véritable adaptation.
Et donc le film se passe donc au sein de cette maison des femmes et on voit la réalité, tout ce qui s'y trame à travers le prisme des soignantes et des soignants.
Tout à fait. Et c'est d'abord comme ça que débute le film. On suit le quotidien, on découvre les personnages, les soignants petit à petit. On voit quels sont leurs métiers, quelles sont leurs approches, quelles relations elles ont avec les patientes. Je me suis dit, tiens, on va suivre les soignants. Et en fait, à un moment donné, le film, je ne vais pas dire bascule, mais on passe aussi du point de vue des victimes, du point de vue des patientes, et on partage des instants de vie.
Voilà, donc c'est tout à fait un film choral comme elle l'entendait, avec des points de vue multiples sur ce qui se passe à la Maison des Femmes.
Ouais, tout à fait. Et vraiment, une autre des qualités, c'est que le montage est vraiment très, très soigné. La durée des scènes est maîtrisée. Les scènes s'enchaînent très bien. Il y a vraiment, dire aussi aux spectateurs qui vont aller voir ce film, il n'y a aucune mise en scène de violence. C'est vraiment un film qui est, je le redis, une adaptation, mais qui montre de la manière la plus objective, la plus objective possible de ce qui peut se passer dans ces centres-là.
Oui, et qui apporte aussi beaucoup de réconfort et de positif, même si les femmes viennent pour des choses dures, ça n'empêche pas qu'il s'y passe des très belles choses. Des très belles choses aussi du côté du casting, où il y a de très belles actrices.
Oui, avec en tête Karine Viard, qui donc... interprète la gynécologue et qui est à la tête de cette... Le personnage est à la tête de cette structure. Il y a également Laetitia Doche, Oulaya Mamra, Aya Idara, dont on a beaucoup parlé dernièrement, puisqu'elle a présidé la cérémonie d'ouverture du dernier Festival de Cannes, mais également Pierre d'Alain Donchamp, qui est un soignant masculin, et Laurence Tucker de la Comédie Française, qui lui joue un inspecteur dans le film, venant vérifier le fonctionnement de ces structures. Et un plus petit rôle pour Juliette Armanet, la chanteuse, qui interprète une psychologue dans le film.
Et alors pour Karine Viard, la préparation n'a pas été forcément évidente parce que donc elle joue finalement le rôle de Rada Hatem, mais elle ne voulait pas la rencontrer avant par peur d'être trop. Elle voulait pas trop s'inspirer de la personne réelle pour que ça reste justement une fiction.
Tout à fait, c'est là où vraiment elle joue totalement son rôle de comédienne et d'adaptation, puisque c'est beaucoup documenté, aussi bien sur des écrits que sur des interviews, que sur des podcasts, pour vraiment à la fois s'approprier personnage et essayer de la retranscrire à l'écran de la manière la plus juste possible avec toute une part d'humanité et de professionnalisme qui caractérise la véritable Rada Hatem dans la vraie vie.
Et alors un mot peut-être aussi sur la mise en scène et l'image. Mélissa Godet, elle a travaillé là avec le même directeur de la photo que dans son précédent film.
Tout à fait. Alors la particularité pour Mélissa Godet, c'est que c'est son premier long métrage et ce qui en fait encore ce qui est tout à fait remarquable. Elle a travaillé avec le même directeur de la photographie depuis un précédent court-métrage en 2021 qui s'appelait Les enfants d'Oma. Et en fait, elle a décidé très vite que les séquences chorales qui relèvent souvent de la comédie seraient assez découpées et seraient très dynamiques et que par contre, les scènes d'entretien avec la patiente seraient plutôt filmées en plan séquence. Dans ce film, on peut penser à Police de Mai Wen, où moi j'ai plutôt souvent pensé à Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herrick, magnifique film aussi sur la justice restaurative qui consiste à ce que les victimes soient confrontées en discussion et rencontrent les personnes condamnées donc en prison. Donc dans ce film-là, qui est aussi très beau, très fort, on retrouve les cercles de parole de la même manière que quelques scènes qui sont comme ça dans la maison des femmes.
Et alors David, toi tu as découvert le film jeudi dernier lors de la projection à Saint-Enimi, et avant que tu nous donnes un peu ton ressenti peut-être plus personnel sur le film, juste un mot pour dire que lors de cette projection, vous aviez invité le Centre d'information sur les droits des femmes à venir pour ensuite débattre à l'issue de la projection.
Oui, tout à fait, le CIDFF de Lozère, nous avions deux intervenantes, une bénévole et puis la directrice de la structure qui sont venues commenter le film, mais également faire un pont, puisqu'il y a un projet de Maison des Femmes en Lozère, a priori pour cette année, donc qui serait rattaché au centre hospitalier de Mende. Voilà, tout n'est pas encore calé complètement financièrement et administrativement, mais c'est un projet qui devrait sortir dans le courant d'ici la fin de l'année.
Affaire à suivre. Et alors, est-ce que tu recommandes ce film ? Est-ce que toi, il t'a touché ?
Oui, bien entendu. C'est comme on a pu l'aborder tout à l'heure, c'est un très, très beau film. On peut considérer que c'est un film d'utilité vraiment publique, hein, puisque c'est beau, c'est émouvant, c'est pas du tout plombant, vous n'allez pas ressortir avec le moral à zéro, et ça donne plein, plein d'espoir, c'est très humain, et vraiment, il y a des notes d'humour, il y a des scènes plus légères, allez-y, c'est vraiment quelque chose, un film à encourager.
Et alors aussi pour en savoir plus, pas sur l'aspect fiction, mais vraiment de retour dans la réalité sur la maison des femmes de Saint-Denis et le type de parcours de vie qui peuvent mener les femmes dans ce lieu. Tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement de cette chronique que tu avais entendu une interview très intéressante sur France Inter justement de Rada Hatem.
Oui, je l'ai utilisé pour la préparation de cette chronique. C'est une interview qu'on retrouve dans la matinale de France Inter du 25 février 2026. Une interview d'une vingtaine de minutes avec Rada Hatem et Karine Viard.
Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller écouter ça. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup, David.
Merci beaucoup, Raphaël. À bientôt.
À très bientôt. Et quelques dates pour voir La Maison des Femmes dans les semaines qui arrivent sur les écrans Cévenol. Il y aura une séance à Florac mercredi 3 juin à 21h, à Hispaniac le vendredi 5 juin à 21h également, à Saint-Martin-de-Lensuscle le lendemain le samedi 6 juin, 21h toujours, Saint-Étienne, Vallée Française dimanche 7 juin 21h, à Vébron, dimanche 7 juin aussi à 20h30 cette fois. Et Méruès, ce sera un peu plus tard le 18 juin. Cassagnas, le 21 juin. Saint-Martin-de-Boubeau, le 24. Toutes ces horaires-là sont à retrouver évidemment sur le site de Cinéco. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous retrouve demain, même heure, midi et des poussières précises pour un nouvel épisode. Je recevrai Isabelle Guérin qui viendra nous présenter son livre La femme endettée. Socio-économiste, directrice de recherche à l'IRD, Isabelle Guérin s'intéresse dans ce livre à la figure de la femme endettée de la France au Sénégal en passant par le Maroc. Une femme qui, pour faire vivre sa famille, compte chaque sou sans dette pour nourrir, loger, soigner, marier. Ces femmes jouent un rôle central mais ignoré dans le fonctionnement quotidien du capitalisme. Elles ne sont pas à sa marge mais en son cœur. Sans elles, pas de consommation, pas de profit. Sans elles, la machine ne tourne pas. Voilà, Isabelle Guérin, elle présentera ce livre en public à la pompe à Florac demain à 18h et elle passe en avant-première par les studios de Radio Bartas. Soyez à l'écoute. À demain.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.